France Inter.
Aujourd'hui, la neige, une espèce en voie de disparition, racontée par...
Marie Dumont, responsable du Centre d'études de la neige, Météo France, CNRS.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Février 2030, Alpes du Nord, les drones survolent les sites de compétition des Jeux Olympiques, autrefois tapissés de neige immaculée. Les montagnes présentent désormais des étendues parsemées de plaques de neige artificielles entourées de prairies verdoyantes et de sols à nu. Les JO d'hiver, autrefois célébrés pour ces paysages enneigés, se déroulent désormais sous des températures printanières. Les organisateurs de ces JO 2030 ont dû faire preuve d'ingéniosité pour maintenir les compétitions. L'enneigement naturel est désormais insuffisant, même à 2000 mètres d'altitude. Les canons à neige tournent jour et nuit, alimentés par des réservoirs artificiels, des installations qui nécessitent une quantité d'eau colossale dans une région où les ressources hydriques s'amenuisent. Les athlètes, eux aussi, doivent s'adapter à ces conditions inédites. Lors de la descente masculine, la température dépasse 10 degrés et des vents chauds soufflent, rendant la piste glissante et imprévisible. Les courses en basse montagne ont été purement et simplement supprimées en raison du manque total de neige. L'histoire récente des Jeux Olympiques d'hiver avait déjà donné un aperçu de cette nouvelle réalité. En 2022, Pékin avait été la première ville à organiser des JO sur de la neige 100% artificielle. Cette édition avait marqué le début d'une nouvelle ère où la technologie prenait le relais d'une nature déréglée. Dans les Alpes, en 2030, le manteau neigeux, qui jouait autrefois le rôle de réservoir d'eau hivernale, a pratiquement disparu. Certaines stations de ski situées sous les 1500 mètres ont dû se reconvertir, se transformant en centre de randonnée ou en parc d'aventure estivale. Les stations plus hautes ont pu survivre grâce à des investissements massifs dans la neige artificielle, mais au prix d'une consommation énergétique et hydrique insoutenable. En 2030, les Alpes, autrefois surnommées le château d'eau de l'Europe, ne jouent plus leur rôle de réservoir naturel. La fonte des neiges, autrefois progressive et régulière au printemps, se produit désormais dès janvier, perturbant l'approvisionnement en eau des bassins versants comme ceux de la Garonne et du Rhône. Les rivières connaissent des crues hivernales soudaines, suivi de sécheresses estivales prolongées. Les agriculteurs des plaines, situés en aval, signalent une baisse de 30% des rendements agricoles, faute d'eau disponible en été. Les restrictions sur l'usage de l'eau deviennent la norme, même dans des régions historiquement abondantes en ressources hydriques. Le verdissement des Alpes, déjà observé dans les années 2020, s'est accéléré et les Jeux Olympiques d'hiver sont devenus une relique du passé, figée dans des images d'archives enneigées.
Les neiges fraîches atteignent 25 à 35 cm suivant l'exposition des massifs. Elles seront assez longues à se tasser en raison des basses températures. Par contre, la sous-couche se consolidera mais reste fragile encore quelques jours. Prudence pour leur ski hors piste. Terminé.
Voilà, FR3 Lyon 1976, c'était le bulletin neige du Centre d'études de la neige. Bonjour Marie Dumont.
Bonjour, incroyable.
C'est chez vous ça, hein ?
Oui,
incroyable. Exactement. Il y avait des bulletins comme ça à l'époque régulièrement ?
De toute évidence, oui, ça a commencé dans les années 70, les bulletins.
Ouais. Il se trouve où exactement ce Centre d'études de la neige ?
Alors aujourd'hui, on a un bâtiment qui se situe sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères, à côté de Grenoble, et puis un autre bâtiment qui se situe au col de Porte, dans le massif de la Chartreuse, à 1325 mètres.
Très heureux de vous retrouver, puisque la dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était il y a 2 ans, tout juste, les pieds dans la neige. C'était sur le massif des Aiguilles Rouges, dans les Alpes, pour les 4 saisons de la Terre au carré. Et en décembre dernier, Marie Dumont, vous écriviez pour le site The Conversation un article intitulé « Y aura-t-il de la neige cet hiver ?» Est-ce que c'est compliqué de répondre à cette question ?
Alors oui, c'est compliqué. Après, ça dépend toujours des échéances auxquelles on parle. Si on me demande est-ce qu'il y aura de la neige demain, en disant demain c'est 24 heures, ouais, là on sait répondre.
Ça va,
ou dans
ouais.
une semaine, on sait répondre. Après, plus loin, c'est beaucoup plus compliqué. Et on sait aussi répondre sur des, on va dire, sur des moyennes. Est-ce qu'il y aura de la neige en moyenne en 2030, en 2040, en 2050 ? Par contre, précisément en février 2030 ou en février 2031, ça reste très compliqué.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'on appelle le manteau neigeux. Alors, qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi vous l'étudiez ?
Alors, le manteau est neigeux, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est la neige une fois qu'elle est tombée sur le sol et qu'elle s'accumule sur le sol. Contrairement à ce qu'on peut penser, des fois, c'est pas une accumulation, un tas de petits flocons très jolis qui brillent, etc. C'est plutôt ce qu'on appelle un matériau poreux. C'est un matériau qui est complexe et qui est comme une espèce de mousse, en fait, de glace et d'air, et dont la structure se déforme et évolue en permanence et va déterminer les propriétés.
Et pourquoi vous l'étudiez en particulier ?
Alors pourquoi je l'étudie ? Je l'étudie parce que j'aime beaucoup la neige et que ça me passionne, ouais. Mais pas que pour ça. Je l'étudie aussi parce que la neige, c'est un milieu qui a un impact sur beaucoup de choses. Alors qu'a un impact sur l'économie des régions de montagne, comme on a vu en introduction, qu'a un impact sur les ressources en eau, qu'a un impact sur les écosystèmes et qu'a aussi un impact sur les risques naturels et surtout sur le climat au global de la planète.
Pourquoi ça a un impact sur le climat ? Alors parce qu'on pourrait dire que c'est le climat qui a un impact sur le manteau neigeux.
Alors justement, c'est ça qui est compliqué. En fait, la neige, c'est à la fois une victime du réchauffement climatique, mais c'est aussi un acteur du réchauffement climatique. C'est un acteur du réchauffement climatique parce que la neige, elle a une propriété unique et pourtant très simple, elle est blanche du fait de sa composition en fait. Quand on dit qu'elle est blanche, ça veut dire qu'elle va renvoyer l'énergie du soleil qui arrive de l'atmosphère. Quand on renvoie cette énergie, on limite du coup l'absorption d'énergie par la Terre et on limite le réchauffement.
Donc ça, c'est un service précieux que rend la neige.
C'est un service très très précieux,
ouais. Et donc, quand il manque de la neige, précisément, elle ne peut plus jouer ce rôle de réfléchisseur du soleil.
Exactement. Du coup, on va absorber de l'énergie et on va se réchauffer plus vite. Donc, en gros, avec le réchauffement climatique, on a moins de neige, la Terre devient moins blanche, on absorbe plus d'énergie du soleil et du coup, on se réchauffe plus vite. Donc, il y a vraiment un effet d'emballement.
Ouais. À quel moment est-ce qu'on a commencé à étudier ce manteau neigeux ? Là, on parlait précisément de ce centre d'études de la neige. Ça remonte à quand, cette histoire, au départ ?
Alors, cette histoire, elle remonte à en 1960. Où il y a un observatoire de la neige qui a été construit au col de Porte, à l'origine pour étudier à la fois les avalanches et les ressources hydrologiques en Chartreuse.
Ouais.
Et c'était à ce moment-là, c'était sous l'égide de la météorologie nationale, ouais, dans Météo France. Et puis, au fur et à mesure, ces recherches, elles ont grandi, elles se sont élargies en thématiques. On est descendu en bas à l'université pour s'agrandir et faire plus de recherches sur la neige.
Et donc, toutes les chutes de neige sont mesurées au col de Porte, par exemple ?
Oui, tout à fait.
Depuis 60 ans,
Depuis 64 ans, coup, presque 65. Depuis l'hiver 60-61, on mesure toutes les chutes de neige au col de Porte. On mesure non seulement la neige, mais aussi toutes les variables météo, donc la température de l'air, la précipitation, le vent, etc. Dans le champ de mesure, il y a eu plus d'une centaine de capteurs.
Oui. Et donc ça, c'est une station qui est très importante parce que je crois qu'elle fait aussi office de référence dans le monde entier. En fait, on prend les Alpes comme témoin un petit peu de ce qui se passe à l'échelle de la planète.
Alors des séries longues comme ça d'observations de la neige et de la météo en montagne, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il y en a quelques-unes. Donc le col de Porte est une de ces séries de référence et elle est très précieuse parce que c'est une série qui est continue, il n'y a pas de trou, qui est expertise en permanence.
Donc très documentée.
Qui est très documentée. Et du coup, on a un témoin unique du signal de réchauffement climatique et de l'impact sur la neige pour la moyenne altitude, du coup 1325 mètres dans les Alpes.
On va en parler évidemment dans un instant avec toutes les observations qui ont été faites donc depuis 60 ans et qui permettent de dire comment se comporte ce manteau neigeux dans ce contexte du réchauffement climatique. D'abord, encore quelques petites questions. Marie Duhon, parce que vous y répondez volontiers d'ailleurs dans des articles, au sujet de la couleur de la neige blanche, c'est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement. Pourquoi la neige est-elle blanche alors même que des glaçons par exemple qui sortent de notre congélateurs sont, eux, transparents.
Alors, la réponse, c'est que la neige est blanche justement parce que ces glaçons sont transparents.
Ah bon ? Alors, donc ?
Donc, en fait, quand on dit que la glace est transparente, ça veut dire qu'elle n'absorbe pas la lumière du soleil, en tout cas la lumière visible. La lumière, elle passe et il ne se passe rien.
Ouais.
La neige, c'est cette mousse de glace et d'air. Quand les couleurs du soleil elles rentrent dans le manteau neigeux, elles ont donc très peu de chances d'être absorbées par la glace. Par contre, chaque fois qu'elles tapent un petit interface air-glace, elles vont se faire dévier. Donc, in fine, elles vont se dévier, peu de chances d'être absorbées, et puis elles vont toutes ressortir du manteau neigeux, se mélanger, toutes les couleurs sans avoir été absorbées, et donner ce blanc.
Mais la neige est toujours blanche ? On trouve des neiges colorées parfois ?
On trouve des neiges colorées. La neige, elle peut être verte, elle peut être noire, elle peut être violette, elle peut être rouge, elle peut être orange,
ouais,
selon ce qu'elle contient. Et puis la neige, elle est aussi différentes sortes de blancs. selon sa structure, selon sa qualité. Ça, oui. C'est très important aussi pour le climat.
Il y a certains organismes vivants aussi qui donnent des couleurs particulières à la neige.
Tout à fait. Alors ça, c'est des études qu'on a fait assez récemment dans les Alpes et puis sur tous les continents. En fait, la neige, c'est pas un milieu qui est inerte. C'est un milieu qui contient des organismes vivants, oui. Qui contient des bactéries. Qui
donc, contient... très vivant lui-même.
Voilà. Ouais. Des bactéries, qui contient des champignons et qui contient aussi des algues. Et des algues des neiges. Et dans les Alpes, l'espèce prédominante, c'est une espèce qui s'appelle Sanguina nivaloides et qui produit... Et
ouais. Qui donne bien son nom.
Je connais mon latin.
Ouais, très bien.
Le surnom, c'est aussi le sang des glaciers, mais je trouve qu'il est un petit peu faux parce qu'on le retrouve. C'est une algue qui est sur la neige, pas sur les glaciers. Et du coup, ça donne une couleur sang à la neige quand ça fleurit, quand on dit quand ça bloom au printemps.
Ouais, et ça, c'est fréquent. Alors, on peut le voir assez facilement sur les massifs.
Alors, c'est fréquent dans les Alpes. Il y en a spécialement dans la partie française des Alpes. En Vanoise, il y en a beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on peut observer à la fin du printemps, au début de l'été. Sur des années, on a pu montrer que on les observait surtout. Toutes les années où il y avait beaucoup de neige et où le temps de fonte du manteau neigeux était long, parce que ces algues, elles ont besoin d'eau pour se développer.
Ouais. Donc, Marie Dumont, votre travail consiste à creuser des trous pour lire dans les différentes couches de neige.
C'est ça, hein, c'est pour ça que je suis connue, je creuse des trous dans la neige.
C'est ça, c'est votre célébrité à vous. Et donc, ça permet de retracer cette histoire du climat aussi.
Alors, ça permet de, quand on creuse des trous dans la neige, en tout cas dans la neige saisonnière, celle du col de Porte, ce qu'on fait toutes les semaines pendant l'hiver, ça permet de retracer l'histoire de la saison en cours. Mm-hmm. Ça permet de connaître les propriétés des différentes couches de neige, parce que la neige, c'est pas du tout pareil sur toute la colonne. En fait, chaque couche a une histoire, chaque couche évolue différemment. Ça permet d'évaluer nos modèles de neige et ça permet aussi, c'est une mesure qui est faite classiquement dans les stations de ski, pour évaluer la stabilité du manteau neigeux.
Donc, sur des échelles de temps assez courtes par rapport au climat, justement.
Oui, ça, ouais. C'est des mesures qu'on fait plutôt toutes les semaines ou pendant la saison. Ouais.
Les propriétés particulières de la neige, donc vous l'avez dit, cet effet albédo hein, qui est extrêmement important pour réfléchir les rayonnements du soleil. La neige qui est aussi un réservoir d'eau pour les régions montagneuses, donc ça c'est des rôles extrêmement importants puisqu'elle fournit évidemment de l'eau aux rivières.
Tout à fait. En fait, elle fait un rôle de réservoir pendant l'hiver, donc là on a un faible débit d'eau, ouais. Et puis au moment de la fonte, elle relâche toute son eau, et donc on a ce qu'on appelle le pic d'eau de fonte, où on a beaucoup d'eau qui est disponible pour l'agriculture, l'hydroélectricité, etc.
Et il y a un effet isolant aussi de la neige, hein, qui est très important.
Tout à fait.
Parce que on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai que c'est vraiment, pour les plantes, en tout cas, absolument primordial.
Pour les plantes, pour les animaux et pour le sol, c'est un effet qui est primordial, c'est un effet qu'on oublie souvent. En fait, la neige, c'est beaucoup d'air, hein. La poudreuse, c'est 90 kg par mètre cube, donc c'est très très léger, c'est beaucoup d'air. Et l'air, ben, c'est isolant. Donc en moyenne, la neige, c'est 10 fois plus isolant que du béton. Donc c'est quand même pas mal. C'est la propriété qu'on utilise quand on fait un igloo. Pourquoi on fait un igloo pour s'isoler du froid. Et du coup, la neige, quand elle recouvre le sol, elle va protéger du froid pendant l'hiver et puis du chaud pendant le printemps et l'été, tout ce qui y vit, et le sol lui-même.
C'est comme le paillage d'un potager, quoi, quasiment.
C'est exactement ça.
Ce qu'on voit pour protéger justement les cultures. Marie Dumont, vous êtes notre invitée. On va voir ensemble quelles sont évidemment les conséquences de cette raréfaction de la couverture neigeuse, parce qu'on peut déjà dire quand même qu'il y a un effet de raréfaction.
Hein, totalement.
Et quels sont les effets, évidemment, sur les massifs montagneux, et pas seulement. Vous êtes notre invitée. Vous répondrez également aux messages et aux questions autour de la neige qui arrivent sur franceinter.fr.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Bonjour.
Bienvenue au Centre d'études de la neige de Météo France. Depuis 61 années, on mesure l'enneigement à 1500 mètres sur le massif de la Chartreuse.
Grâce à des instruments de mesure très précis, les chercheurs sont aujourd'hui en mesure d'affirmer que depuis 60 ans, le niveau d'enneigement baisse en moyenne montagne à cause du réchauffement climatique.
On a perdu, entre ces deux fois 30 ans, 40 cm d'épaisseur sur notre manteau neigeux moyen saisonnier. Donc à la fin, évidemment, que je ne sais pas quand, probablement autour de 2100-2150, il n'y aura plus de neige en Chartreuse.
La voix d'Yves Lejeune, c'est un de vos collègues, Marie Dumont, au Centre d'études de la neige, vous qui êtes chercheuse et directrice de ce centre d'études. Là, on a déjà un bon résumé, hein, au fond, des relevés de ce que montrent les observations sur l'épaisseur du manteau neigeux. Qu'est-ce que ça veut dire en matière de réchauffement climatique et de projection sur l'avenir? Donc, entre 1961 et 2020, hein, l'épaisseur du manteau neigeux hivernal a diminué
de quasi-moitié, en fait, de 40%.
Quasi-moitié,
Au col de Porte.
Au col de Porte. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire sur le reste des massifs?
Alors, cette diminution de l'enneigement avec le réchauffement climatique, elle est spécialement marquée aux basses et moyennes altitudes. Donc, le col de Porte, c'est 1325 mètres, c'est ça, de la moyenne altitude.
Donc, on est jusqu'à 2000 mètres à peu près ou
c'est ce qu'on dit en général, ouais. La baisse du manteau neigeux, elle est spécialement marquée en dessous de 2000 mètres. Au-dessus de 2000 mètres, il y en a une aussi, mais c'est moins prononcé.
Et donc les Alpes, est-ce qu'elles se réchauffent plus vite qu'ailleurs également ou pas par rapport aux autres massifs?
Alors les Alpes, elles se réchauffent, aujourd'hui le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle c'est à peu près 2 degrés. Donc c'est exactement dans ce qu'on calcule pour l'Europe. Mm-hmm. C'est pas plus que pour l'Europe, c'est plus que pour certaines régions de la France mais pas plus que pour l'Europe.
Ouais.
Par contre c'est plus que le global.
Oui, parce que vous avez pu justement effectuer des mesures sur pas mal de terrains. Vous êtes évidemment dans les Alpes mais le Népal, la Scandinavie, le Svalbard dans l'Arctique, l'Antarctique et plus récemment l'Arctique canadien. Est-ce que là aussi les observations sont les mêmes partout concernant cette épaisseur qui diminue du manteau neigeux ou pas?
Alors partout pas tout à fait parce que dans le centre, dans l'Antarctique, c'est pas quelque chose qu'on observe. Par contre dans l'Arctique où je suis allée très récemment, c'est quelque chose qui est dramatique et qui a un impact qu'on ressent beaucoup plus que celui qu'on ressent dans les Alpes parce que ça impacte vraiment la vie des et la sécurité des populations locales.
Ouais. Et dans des échelles qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans les Alpes françaises?
Alors le réchauffement climatique dans l'Arctique, il est plus prononcé, il est à peu près x2 que celui qu'on observe dans les Alpes, donc c'est quelque chose qui va vraiment plus vite qu'une génération, et c'est quelque chose que les gens observent et expérimentent au quotidien, et moi c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée, parce qu'ici on le ressent un peu le réchauffement climatique, mais au final pas tant que ça. Là-bas, c'est leur vie, c'est leur quotidien, c'est la sécurité de leurs habitats, c'est leur tradition de chasse, c'est toutes leurs traditions qui sont bouleversées en fait.
Qu'est-ce qui est à l'origine, Marie Dumont, de la raréfaction de la neige, donc à basse et moyenne altitude, puisque c'est plutôt de ça dont on parle ensemble?
Alors à basse et moyenne altitude, dans les Alpes, ce qui se passe, c'est que comme il fait plus chaud en hiver, et qu'à basse et moyenne altitude, en fait, il fait pas très froid. En moyenne, pendant l'hiver, il va faire autour de 0 degré. On augmente un peu cette température, on passe en positif, et du coup, au lieu de tomber de la neige, il tombe de la pluie. Du coup, il y a moins de neige au sol.
Ouais, donc des chutes de pluie plus fréquentes aussi, et donc cette épaisseur moyenne qui n'arrive pas finalement à augmenter au fil des décennies, hein, c'est ça?
Non, qui décroît très fortement au fil des décennies, parce qu'il y a moins de neige qui tombe juste.
Et à haute altitude, qu'est-ce qu'on observe alors là en l'occurrence?
Alors à haute altitude, l'histoire elle est un petit peu différente, parce que forcément on n'est pas autour de 0 degré en moyenne de température hivernale, on est beaucoup plus froid, donc on augmente un peu, mais on ne va pas forcément favoriser la pluie par rapport à la neige, parce qu'il fait trop froid. Mmh. Par contre, on observe qu'il y a quand même une diminution de la durée d'enneigement parce que la fonte, elle est plus précoce et du coup, elle va faire disparaître le manteau neigeux plus tôt. Les Suisses, ils ont un observatoire qui est à peu près le même qu'au col de Porte, mais à beaucoup plus haut, à 2500 mètres d'altitude, le Weißfluor, si je le prononce correctement. Si on fait le calcul sur la période hivernale décembre-avril, il n'y a pas de changement dans la hauteur moyenne de neige. Par contre, si on regarde ce qui se passe après avril, on voit qu'on perd 15 jours d'enneigement entre les deux périodes de 30 ans.
En tout cas, l'important, c'est de pouvoir observer les choses sur du temps relativement long, avec le recul dont vous nous parliez tout à l'heure, qui est celui de au moins plusieurs décennies, parce qu'évidemment, d'une année à l'autre, on peut avoir un hiver avec énormément de neige, et puis une autre année se retrouver sans beaucoup de neige, avec des températures plus importantes. Donc ce qui est important, c'est la moyenne, justement, sur des échelles qui nous renvoient sur plusieurs décennies,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est un peu à l'image de la différence entre la météo et le climat. La neige, l'enneigement, c'est quelque chose qui varie énormément d'un hiver sur l'autre, qui a toujours varié énormément d'un hiver sur l'autre, et du coup, si on compare juste deux années ensemble, ça ne va rien nous dire. Par contre, quand on commence à faire des moyennes sur 20 ans, voire 30 ans, là, on a un signal climatique.
Ouais. Dans les Alpes, la neige, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, justement, elle recouvre le sol normalement pendant combien de temps?
Pendant 6 mois et demi,
donc,
à peu près.
Plus de la moitié de l'année.
Ouais.
Hein,
ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui est présent longtemps et qui, du coup, a un impact fort sur l'environnement.
Ouais. Quelles sont les conséquences de cette raréfaction, précisément, de la couverture neigeuse? Est-ce qu'on peut déjà qualifier ce qui se passe? Est-ce que ça modifie profondément l'environnement, la société, l'économie des régions de montagne?
Alors oui, on le voit, on l'observe déjà malheureusement. En fait, la montagne, c'est vraiment quelque chose qui est beau et qui est en équilibre assez fragile parce qu'on a des variations très fortes d'altitude. Et le recul de l'enneigement, il a des conséquences qui sont dramatiques quelque part et qu'on observe déjà aujourd'hui. Alors d'une part sur l'économie des régions de montagne, sur les stations de sport d'hiver, aussi sur l'hydrologie. Parce que la neige, c'est ce qui gère le cycle de l'eau en montagne.
Ouais.
Moins de neige, ça veut dire qu'on a moins de neige et plus de pluie, ça veut dire qu'on a plus de débit en hiver. Ça
donc
veut
avec
dire
plus de pluie.
Plus de pluie, voilà. Mm-hmm. Un risque aussi qui est majoré du coup d'inondations pendant l'hiver. Ensuite, on a moins de neige au sol, donc un pic d'eau de fonte qui est plus précoce et qui est plus bas, ce qui va amener en été à un étiage, c'est-à-dire les basses eaux qui arrivent plus vite et qui est plus bas. Donc potentiellement des problèmes de ressources en eau en été.
Donc augmentation en hiver à cause de la pluie et diminution au printemps et enneigé parce que moins de neige du
Exactement.
Coup.
Hein,
c'est ça.
Hein.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet ? Il y a le verdissement, on le disait tout à l'heure, le verdissement des Alpes avec ce recul de l'enneigement. Ça veut dire quoi concrètement là aussi ?
Alors, je ne suis pas écologue, mais je vais essayer de le dire bien. Donc le verdissement, ça veut dire qu'en gros, il y a des plantes qui colonisent des endroits qui n'étaient pas colonisés avant par des plantes. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le changement, la raréfaction de la neige, ça change du coup la ressource en eau pour les écosystèmes. Ça change aussi la température du sol, parce que la neige, elle isole le sol des variations de température. En moyenne, comme la neige recule, la température du sol augmente un peu, mais on est plus exposé aussi aux gelées. Les plantes sont plus exposées aux gelées au printemps. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les plantes, elles vont avoir tendance à migrer en altitude, mais elles n'ont pas toute la capacité, toutes les espèces n'ont pas la capacité de le faire. Donc il va y avoir comme un espèce de tri, il y a des plantes qui vont pouvoir migrer, des plantes qui ne vont pas pouvoir migrer, et qui vont donc du coup pas soutenir la compétition avec d'autres plantes qui auraient migré de plus bas. Donc ça engendre en gros un bouleversement total des écosystèmes et derrière des services que peuvent rendre ces écosystèmes, comme par exemple la régulation de l'eau, etc.
Donc on voit un changement dans la répartition de ces plantes avec l'altitude de la végétation, c'est ça. Et ça, on l'observe déjà en fait.
Oui, ça c'est quelque chose qui est déjà observé.
C'est déjà très marqué. Ouais. Et sur des altitudes très importantes ou pas ? Ou est-ce que pour l'instant, ça reste graduellement, en tout cas assez lent.
Alors là, j'aurais du mal à répondre hyper précisément, mais je pense que c'est plutôt aux alentours de 2000 mètres.
Ouais,
et en dessous de 2000 mètres qu'on voit ça.
Déjà ces gros changements. Il faut parler évidemment des avalanches et des éboulis, parce que là aussi, ça joue avec le recul de la neige, ça modifie tous ces aléas naturels associés, c'est
tout
ce qu'on
fait.
Dit, c'est le jargon un petit peu. Mais
tout à fait, ça modifie les aléas naturels associés à la neige.
Ouais.
Donc comme on a un changement dans le Montenegro, on va avoir un changement dans le type, la répartition, la distribution des avalanches, avec potentiellement moins d'avalanches de neige sèche et plus d'avalanches de neige humide, plutôt dans des endroits où on l'a pas vu avant, mais ça c'est encore des choses qu'on est en train d'étudier.
Ouais.
Et après, l'autre chose c'est qu'en montagne, on a des sols qui sont gelés en permanence, ça s'appelle le pergélisol, et ces sols gelés, le gel, c'est un peu le ciment de certaines parois rocheuses. Des fois, ce pergélisol, il est protégé par la neige, donc le changement dans la neige combiné aussi à l'augmentation de la température estivale, va provoquer parfois un dégel de ce pergélisol et du coup un éboulement de certaines parois rocheuses.
Et ça, les alpinistes le remarquent aussi. Hein. Je me souviens quand on était justement à Chamonix, c'est quelque chose qui est très observable aujourd'hui et qui pose des problèmes même de sécurité. Hein.
Ça pose des problèmes de sécurité, ça engendre des changements majeurs dans les pratiques de l'alpinisme. Il y a par exemple une étude qui a été publiée il y a quelques années où en gros ils ont pris la bible de l'alpiniste qui est les 100 plus belles de Rebiva. Ils ont pris toutes les courses dans le massif du Mont-Blanc, ils ont regardé dans quel état étaient ces courses aujourd'hui. C'est un livre qui date de 70, si je ne me trompe pas. Et en fait, la majorité des courses, elles ne sont plus faisables dans les mêmes conditions de sécurité.
Donc ça va extrêmement vite. Hein. En 50 ans, on voit déjà ces changements à l'œuvre. Et puis on parle même de sécheresse de neige. Ça, c'est un terme que vous employez, vous, les scientifiques,
oui,
ou pas ?
Oui, c'est un terme qui est employé par les scientifiques, snowdrop en anglais.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, ça signifie, c'est arrivé pas l'année dernière, l'année encore d'avant, il me semble. En gros, quand on a très peu de neige, très peu d'apport de neige en hiver, du coup, on a des réservoirs d'eau qui sont complètement vides pour le printemps. Et ça pose, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vraiment un problème, du coup, de sécheresse au printemps, puis en été derrière.
Donc, ce sont des alertes supplémentaires hein, sur les problèmes de pénurie, par exemple, et l'urgence aussi à s'adapter en raison de cette situation.
Oui, tout à fait. Hein.
Marie Dumont, on se retrouve dans un instant pour comprendre comment on peut prévoir l'évolution de ce manteau neigeux, quelles sont les modélisations, ce que ça nous dit aussi de l'avenir. Et puis vous répondrez au message. Question qui arrive sur la page de l'émission et sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Allez !
J'en peux plus !
Vas-y, mets-toi de pied ! Allez !
Mais je peux pas !
Laisse-toi aller !
Parce que la neige, elle est trop molle pour moi ! C'est trop dur !
Viens, c'est fastoche !
J'y vais, mais j'ai peur ! Ça va très vite !
Super !
Comment parler de neige et de ski sans évidemment diffuser un extrait des Bronzés font du ski. Marie Dumont, vous qui êtes notre invitée, vous êtes une bonne skieuse ou d'ailleurs ou pas?
Oui, je pense. Enfin, j'adore ça surtout.
Mais c'est pour votre boulot hein, en plus.
Alors j'en fais un peu pour faire des relevés, ouais. Puis après j'en fais beaucoup dans mes loisirs aussi.
Qu'est-ce que vous pratiquez vous de préférence?
Alors le ski de randonnée.
C'est qu'est-ce que c'est alors le ski de randonnée?
Le ski de randonnée, ça consiste à monter avec des skis aux pieds qu'on met des pots dessous pour pas redescendre.
C'est ça.
Donc à monter au sommet d'une montagne et après à redescendre.
C'est ça. En général, on voit les gens descendre plutôt les pentes et vous aimez les monter en fait.
Exactement.
Et c'est ultra sportif, non?
Ouais, c'est sportif, ça dépend du rythme, mais ça permet aussi d'être tout seul dans la nature et de jouer un peu avec les conditions de neige.
On parlera de l'avenir du ski dans un instant, il y a déjà des questions à ce sujet et sur les JO 2030 en particulier. On revient d'abord sur vos travaux avec votre laboratoire dans lequel vous étudiez donc de la neige, parce que c'est pas un travail que d'hiver évidemment, vous avez de quoi faire toute l'année. Dans un film d'ailleurs qui présente ce que vous faites, on vous voit faire des carottes donc de glace et de neige et de mettre ces échantillons au laboratoire dans un scanner. Pour apprendre quoi, évidemment, alors?
Alors, du coup, on met des carottes de neige, enfin, des prélèvements de neige dans un scanner médical pour mesurer la structure de la neige en 3D. Donc, en gros, on a des images 3D de neige à super haute résolution. On fait des scans à l'échelle de 10 microns, à peu près.
D'accord.
Alors, pourquoi on fait ça? On fait ça, parce qu'en fait, la structure de la neige, elle va déterminer toutes les propriétés de la neige. À quel point elle va être blanche, à quel point elle va être bonne à skier, à quel point elle va fondre vite, à quel point elle va isoler, à quel point elle va être stable ou pas stable. Ouais. Du coup, c'est vraiment la mesure fondamentale qui va nous permettre de connaître les propriétés de la neige et comment ça évolue.
Donc ça, vous nous avez apporté des échantillons. Alors, c'est pas très radiophonique, mais on va le décrire. Hein. Ce sont des cubes en 3D, en fait. Hein. Donc, il y en a deux et ça représente donc de la neige dans un manteau neigeux tel que vous l'étudiez, c'est ça?
Tout à fait. Donc là, c'est un zoom fois 20.
On dirait un Rubik's Cube, en fait.
Ouais, sauf qu'il tourne pas.
Hein. Il tourne pas celui-là, mais...
C'est rond la neige quand même, hein. C'est pas très carré. Ça représente la neige x20. Si on avait des lunettes x20 sur les yeux, c'est ce qu'on verrait. Donc on voit pas des petits flocons. Hein. Donc là, celui que vous avez entre les mains, c'est de la neige qu'on appelle la neige de printemps, qui a fondu regelé. Donc on voit que c'est pas mal vide. Et puis que
c'est ça, il y a beaucoup de vide. Hein.
Il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup d'air dans la neige, c'est pour ça que ça isole. Et puis l'autre, c'est de la neige poudreuse. Donc quand on prend les deux dans la main, on voit bien quand même la différence de densité.
Et donc ça vous sert à quoi exactement
ça nous sert à comprendre comment la neige elle évolue, comment les propriétés évoluent en fonction des conditions météo. Mmh. Et puis après, on en fait des paramétrisations et qu'on met dans des modèles numériques qui vont nous aider à prévoir l'évolution de la neige à l'échelle de la journée, par exemple pour la prévision du risque d'avalanche, à l'échelle de la saison pour les prévisions hydrologiques ou à l'échelle de plusieurs décennies pour faire des projections climatiques.
Alors moi, c'est ça qui m'intéresse justement. Qu'est-ce que ça vous donne comme information sur l'évolution du manteau neigeux là dans les décennies qui viennent? Parce que j'ai proposé cette petite fiction au début basée en 2030, donc c'est vraiment demain, c'est dans 5 ans. Vous avez déjà un aperçu de ce que pourrait être aujourd'hui l'épaisseur du manteau neigeux ou pas?
Alors oui, on a fait des projections selon différents scénarios de l'état de l'enneigement dans les Alpes et dans les Pyrénées.
Ouais.
Donc ce qu'on peut voir, c'est que tant que la température elle continue d'augmenter, on va continuer de diminuer l'épaisseur de neige de manière plus prononcée à basse et moyenne altitude qu'à haute altitude.
Donc tant qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre, on aura ce phénomène de toute façon.
Et que cette émission nette, elle n'est pas à zéro, on continuera de diminuer l'épaisseur de neige, de faire diminuer l'épaisseur de neige. Mm-hmm. Alors après, il y a un moment où de toute façon, ça va devenir très critique, selon les scénarios de réchauffement, pour les basses et moyennes altitudes, où on va arriver sur des moyennes d'enneigement qui seront de 10, 20 cm, voire très proches de 0 cm.
Et c'est votre collègue tout à l'heure qu'on entendait dans l'extrait, là, au col de Porte, qui nous disait en 2050, on pourrait imaginer qu'il n'y ait plus de neige du tout à cette altitude, 2100.
Non, il a dit 2100 ou 2050, ou 2150 dans les extraits, je crois qu'il dit. Donc après, selon les scénarios, dans les scénarios pessimistes, c'est clair qu'en 2100, la neige au col de Porte, c'est quelque chose qui sera quasiment absent.
Donc 1300 mètres d'altitude, là, en l'occurrence. Hein. Ouais. Donc c'est des tendances qui vont se poursuivre pour l'instant, puisque rien ne laisse malheureusement imaginer que nous cessions d'envoyer des gaz à effet de serre. Hein.
Malheureusement.
Comment on peut agir pour tenter de diminuer précisément cette tendance? C'est vraiment sur nos gaz à effet de serre d'abord que ça joue?
Alors, la neige, c'est quelque chose... En fait, c'est la neige, elle s'arrêtera de diminuer le jour où on arrête d'augmenter la température globale en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose qui n'a pas d'inertie. Donc, quand on agira sur la température, la neige, elle réagira tout de suite et elle continuera de protéger tout ce qu'elle protège et qu'on a protégé auparavant. C'est pas tout à fait comme les glaciers, où les glaciers, ils ont une inertie et du coup, leur destin, pour certains, pour les petits glaciers, il est déjà fixé, quel que soit le scénario d'émission derrière.
Quand vous voyez le résultat de vos modélisations et de vos projections, parce que vous avez vraiment le nez dedans, hein, vous avez finalement une espèce de film déjà qui se dessine, qu'est-ce que vous vous dites, Marie Dumont, sur l'avenir de la montagne et de la neige?
Je me dis je suis triste. Et après, je me dis qu'il faut agir et que chacune des actions, chaque tonne de carbone qui n'est pas émise, chaque dixième de degré qu'on ne prend pas sur la température globale, c'est quelque chose qui sauvera un petit peu et qui préservera un petit peu du manteau neigeux en montagne.
On passe aux questions parce qu'il y en a beaucoup pour vous qui sont arrivés sur le site de l'émission. Tout d'abord, un message de José qui nous dit un clin d'œil à mon ami Marcel Sudul qui, durant des dizaines d'années jusqu'à sa retraite, a veillé au bon fonctionnement de la station du col de Porte, dont vous êtes la directrice, je le rappelle, et les autres moins connus. Qui est ce Marcel Sudul alors exactement?
C'est un des acteurs majeurs de l'observatoire du col de Porte, parce qu'il faut voir, c'est qu'un faire tourner un observatoire avec plus d'une centaine d'instruments pendant tout un hiver, c'est beaucoup de travail, beaucoup de persévérance et beaucoup de montée sous la neige là-haut et... Ça demande de la volonté, de la persévérance.
Annie demande, pourquoi les icebergs sont-ils bleus? Alors, on parlait du blanc de la neige tout à l'heure. Autre question.
Alors, quand j'ai dit que la glace était transparente, j'ai un tout petit peu menti, mais pas tout à fait. En gros, la glace, elle est transparente, mais elle est spécialement transparente dans le bleu. Mmh. Ça veut dire qu'elle absorbe le bleu encore moins que toutes les autres couleurs. Donc, au-delà d'une certaine épaisseur de glace, ce qui va se passer, c'est que quand il y a beaucoup de glace, c'est ce qu'on voit aussi quand on fait un trou, par exemple, dans un glacier ou un trou dans la neige. Au-delà d'une certaine épaisseur de glace, il ne va plus rester les couleurs jaune, vert, etc. Il ne va rester qu'une seule couleur, c'est le bleu, et c'est pour ça que ça apparaît bleu. Alors après, la couleur des icebergs, elle est aussi des fois liée à ce qu'ils contiennent comme minéraux dedans. Donc des fois, on fait des icebergs qui sont très bleus ou très verts, c'est lié à des oxydes qu'on peut trouver à l'intérieur. Ouais.
Une question toujours sur l'idée de la couleur, c'est Yannick qui nous dit ceci. Est-ce que la multiplication des surfaces munies de panneaux solaires peut contribuer à l'élévation positive des températures? Panneaux en général de couleur noire, vous nous parliez de l'albédo, de l'importance de la couleur blanche justement pour refléter les rayons solaires. Est-ce qu'à votre avis, précisément, ça peut jouer ou pas?
Alors, j'ai jamais fait le calcul, mais ce qui est sûr, c'est que quand on met du noir au sol, ça va absorber plus d'énergie que quand on met du blanc. Et c'est des mesures qui sont par exemple prises pour protéger certains glaciers, où on va mettre des bâches blanches pour éviter que la grotte de glace, elle fonde, etc. Et après, ça dépend des surfaces, ça a surtout un effet local, donc je ne sais pas répondre avec des chiffres à la question.
En tout cas, on voit des initiatives qui consistent à peindre en blanc toit des maisons, par
tout
exemple, et c'est un effet albédo que fait naturellement la neige.
Voilà, et qui va protéger le bâtiment localement.
On entend parfois dit Patrick, que les glaciers de Patagonie reculent moins que ceux situés dans d'autres régions du monde. Est-ce vrai? Et pourquoi le recul des glaciers n'est-il pas uniforme? Marie Dumont, est-ce que vous avez une
réponse? Alors, sur les glaciers de Patagonie, je ne sais pas répondre. Par contre, il y a beaucoup de variabilité dans le recul des glaciers, parce que ça dépend du changement des conditions météo, ça dépend de l'état des glaciers, ça dépend de la géométrie des glaciers. Il y a des glaciers qui avancent aussi à cause de leur dynamique et puis qui vont reculer sous l'effet du réchauffement climatique, mais je ne peux pas répondre plus dans le détail.
Antoine nous dit, la semaine dernière, j'ai entendu à la radio un lobbyiste des stations de ski qui a pu dérouler tous les bienfaits du stockage de la neige sans aucune contradiction. Il était très rassurant, notamment sur la tenue des JO 2030. Est-ce que votre invitée, qu'en pense-t-elle en tout cas sur la tenue de cet événement à contre-courant de l'urgence climatique? Et évidemment, j'avais également des questions à ce sujet. Est-ce qu'ils auront assez de neige justement, les skieurs en 2030 pour pouvoir aller réaliser les épreuves de ski ou pas?
Alors 2030, on est en 2025, si je ne me trompe pas, c'est dans 5 ans. 5 ans à l'échelle climatique, c'est rien du tout. Donc on ne sera pas sur un régime qui sera climatique qui sera profondément différent de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Par contre, ce qu'on a dit tout à l'heure reste vrai, c'est qu'il y a des hivers avec beaucoup de neige, des hivers avec très peu de neige, et que par rapport à il y a quelques décennies, en moyenne et basse altitude, eh ben, il y a des températures élevées et il y a des problèmes d'enneigement. Et ça, ce sera toujours vrai en 2030.
Et la neige artificielle à foison, avec ses canons à neige pour même fonctionner à des températures positives, qu'est-ce que ça vous inspire, Marie Dumont ?
Alors,
très énergivore aussi.
En gros, on a un réchauffement climatique, il a un impact sur la neige. Si le pansement qu'on met derrière, c'est quelque chose qui augmente encore le réchauffement climatique, ça pose pour moi question. Après, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que dans l'industrie des sports d'hiver, ce qui coûte le plus cher en termes d'empreinte carbone, c'est le transport. C'est la venue des personnes et l'hébergement aussi derrière.
Mais à
derrière.
Un moment, on a des problèmes de stress hydrique, par exemple, ces histoires de canons à neige, ça paraît être complètement en décalage, non ?
Alors, faut faire des calculs, c'est des calculs qui ont été faits sur certaines stations pour calculer l'impact hydrologique. Je pense que c'est des choses qui ont des réponses qui sont assez locales et qui peuvent différer selon les endroits.
Manon nous dit, on a fait le choix de ne plus aller skier depuis 5 ans. Le voyage tant budget à apprendre à skier à nos 3 enfants nous semble fou face au dérèglement climatique, mais sommes-nous seuls à faire ce choix dans notre entourage ? En tout cas, voilà, on terminera avec ce message. Merci beaucoup Marie Dumont, bon retour à vous à Grenoble.
Merci
beaucoup. À Joël Devers qui a préparé aujourd'hui ce dossier.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci à vous.